VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 23 juin 2022, en direct de Washington, Idrissa Sebulia. Les titres pour commencer. En Guinée, le collectif FNDC suspend son appel à une manifestation ce jeudi. Au Sénégal, concert de casseroles et klaxons à Dakar à l'appel du principal opposant du pays. RDC, plus de 61 ans après son assassinat, le cercueil de Patrice Lumumba a été ramené mercredi sur la terre de ses ancêtres. Ce sera en seconde partie de cette édition. En Afrique du Sud, remise des conclusions d'un rapport accablant sur la corruption d'État pendant la présidence Zuma. L'Ukraine suspendue ce jeudi à la décision sur sa candidature d'adhésion à l'Union européenne. L'ONU appelle l'Iran à ne pas amputer les doigts de condamnés. L'ex-dirigeante birmane destituée Aung San Suu Kyi a quitté sa résidence surveillée et a été placée à l'isolement dans une prison de la capitale, annonce la junte. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En Guinée, le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, annonce suspendre son appel à une manifestation prévue ce jeudi. Jacques Aristide nous donne les détails.
Ce devait être le premier grand rassemblement sous la junte au pouvoir à Conakry, mais le FNDC indique dans un communiqué publié hier vouloir donner une chance au dialogue proposé par le chef du gouvernement transitoire. Le collectif avait appelé à passer outre à l'interdiction de toute manifestation édictée par la junte qui a renversé le chef de l'État Alpha Condé l'année dernière. Le mouvement qui descendait dans la rue contre Alpha Condé de 2019 à 2021 comptait réclamer un délai plus court que les 36 mois retenus par les nouvelles autorités pour rendre la direction du pays à des civils. Le FNDC entendait également protester contre le refus de dialogue manifesté selon lui par la junte et sa gestion unilatérale. Mohamed Béavogui, le premier ministre nommé par la junte, a tendu la main en appelant toutes les forces vives du pays autour de la table du dialogue. Il évoque la réalité violente de l'état du pays à laquelle lui et son gouvernement, dit-il, ont été confrontés pendant 4 semaines d'immersion en province hors de Conakry. Mohamed Béavogui ajoute que les acteurs politiques et sociaux recevront une invitation à une rencontre en vue d'un véritable dialogue sans tabou, franc et inclusif, avec la contribution de la communauté des États ouest-africains, de l'Union africaine et de l'ONU. Le FNDC dit en prendre note et va donc observer une trêve d'une semaine.
Au Sénégal, un concert de casseroles et de klaxons a retenti mercredi soir de nombreuses minutes à Dakar. À l'université Cheikh Diop, dans l'hypercentre et dans plusieurs quartiers résidentiels de la capitale. C'était à l'appel du principal opposant Ousmane Sonko, qui cherche à défier le pouvoir à l'approche des législatives, Nani Talani.
Les tensions vont grandissant au Sénégal depuis que le Conseil constitutionnel a confirmé l'invalidation le 3 juin de la liste nationale des titulaires de la coalition Yewi Askan Oui pour les législatives du 31 juillet. Le principal opposant, Ousmane Sonko, troisième de la présidentielle de 2019 et candidat déclaré à celle de 2024, et d'autres figures de l'opposition se retrouvent écartées de la course. L'opposition réclame le rétablissement de la liste et a menacé d'empêcher la tenue des élections. Sa dernière manifestation, qui avait été interdite officiellement pour risque de trouble, a coûté la vie à 3 personnes le 17 juin et conduit à plus de 200 interpellations, selon l'opposition. Ousmane Sonko a de nouveau appelé les Sénégalais à manifester contre le pouvoir le 29 juin.
Ici à Washington, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a annoncé mercredi avoir décaissé près de 216 millions de dollars en faveur du Sénégal à l'issue d'audits des programmes d'aide. De plus, il a approuvé une augmentation des aides destinées au pays. La flambée des prix mondiaux du carburant et des denrées alimentaires, aggravée par la guerre en Ukraine et dans une moindre mesure le gel des échanges avec le Mali, perturbe la reprise après la pandémie, a commenté le FMI. En Afrique du Sud, les conclusions d'un rapport accablant sur la corruption d'État pendant l'ère Jacob Zuma ont été remises mercredi au président Cyril Ramaphosa. Il doit maintenant décider d'éventuelles poursuites judiciaires. Le point avec Mohamed Houmfa.
Le rapport de plus de 5000 pages, dont le premier volume avait déjà été publié en janvier, accuse l'ex-président Jacob Zuma d'avoir organisé le pillage des caisses de l'État au profit d'un cercle de politiciens et de puissants hommes d'affaires d'origine indienne, les frères Gupta. Ce rapport est l'occasion de rompre de manière décisive avec l'ère de la capture de l'État non donnée dans le pays aux années de corruption généralisée, a déclaré M. Ramaphosa lors de la remise officielle à Pretoria. Le chef de l'État a indiqué qu'il annoncera dans 4 mois au Parlement sa décision de suivre ou non les recommandations du rapport. Les conclusions du rapport surviennent alors que le président Ramaphosa est lui-même mis en cause dans une affaire de cambriolage datant de 2020 dans une de ses propriétés. Cambriolage au cours duquel d'importantes sommes d'argent en liquide ont été trouvées cachées dans du mobilier. Le chef de l'État, qui cherche à être investi par le parti au pouvoir, l'ANC, pour briguer un nouveau mandat à la présidentielle de 2024, a dénoncé des sales coups.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 1 000 000 de personnes ont été tuées et 1 500 blessées dans le puissant séisme qui a frappé une zone frontalière isolée du sud-est de l'Afghanistan. Dans la nuit de mardi à mercredi, selon les autorités, elles craignent que le bilan ne s'élève encore. Les 27 se penchent aujourd'hui à Bruxelles sur la candidature ukrainienne d'adhésion à l'Union européenne, un jalon hautement symbolique près de 4 mois après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Pendant ce temps, les forces russes continuent de resserrer leur étau autour des villes jumelles de Lysychansk et Severodonetsk, une étape clé pour la conquête de l'intégralité du Donbass. Les États-Unis sont jugés plus fiables par les populations des pays alliés depuis l'invasion russe de l'Ukraine, selon un sondage international réalisé dans 18 pays et publié hier. Le point avec Abdourahman Dia.
En Suède, pays du nord de l'Europe qui vient de présenter sa candidature pour adhérer à l'OTAN, 84% des personnes interrogées estiment que Washington est un partenaire fiable, soit 21 points de plus qu'un an plus tôt, d'après cette étude du Pew Research Center. Une hausse comparable est enregistrée en Corée du Sud, qui a connu un bond de 25 points pour se situer à 83%. Au Canada, l'image des États-Unis a connu une hausse de 16 points, soit 84%. L'image de fiabilité de l'Amérique s'est également améliorée de manière significative dans d'autres pays, dont la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Australie. C'est en Pologne, pays voisin de l'Ukraine, que la cote des États-Unis et celle du président Joe Biden sont les plus élevées. Selon le sondage, 91% des Polonais ont une opinion positive des États-Unis, alors que seulement 2% ont une bonne image de la Russie, dont la cote avait pourtant grimpé à 33% en 2019 en Pologne. La Grèce et la Malaisie sont les seuls pays concernés par le sondage, où moins de la moitié des personnes interrogées ont une image positive de l'Amérique.
L'ONU a exhorté l'Iran à renoncer à l'exécution de peine d'amputation des doigts de 8 condamnés. Elle a demandé à Téhéran de supprimer toute forme de châtiement corporel, Yacouba Ouédraogo.
7 des 8 hommes concernés se trouvent au pénitencier central du Grand Téhéran, selon une porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU chargé des droits de l'homme, Ravina Chandasani. Ils ont été reconnus coupables de cambriolage. Selon l'ONU, ils sont condamnés à se faire couper 4 doigts de la main droite et pourraient être transférés à la prison d'Evin à Téhéran, où une guillotine aurait été récemment amenée. L'instance onusienne demande à l'Iran de revisiter de toute urgence ses sanctions pénales afin de supprimer toute forme de châtiment corporel, y compris les amputations, la flagellation et la lapidation, conformément à ses obligations en vertu du droit international relatif aux droits humains. D'après des organisations iraniennes de la société civile, au moins 237 personnes ont été condamnées à des amputations entre le 1er janvier 2000 et le 24 septembre 2020. Ces sentences ont été exécutées dans au moins 129 cas, a indiqué Mme Chandasani. Le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, présenté mardi, indique que l'Iran a exécuté plus de 100 personnes entre le 1er janvier et le 20 mars. Le rapport précise que 260 personnes ont été exécutées en 2020 et au moins 310 en 2021. L'Iran a dénoncé un rapport biaisé. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel l'Iran est parti interdit les actes de torture, ce qui englobe les châtiments inhumains.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibault.
Le Cameroun a lancé deux applications pour développer le financement et le développement des PME. Ces nouveaux outils numériques permettent de simuler en temps réel les hypothèses de création ou de développement de leurs affaires, ce qui augmentera leurs chances d'obtenir des crédits. Pour les autorités camerounaises, cela permettra aux investisseurs, promoteurs et créateurs d'entreprises d'accroître la productivité des entreprises camerounaises. Au Sénégal, après plusieurs cas de détournement de fonds imputés à ses agents, le Trésor public a lancé hier à Dakar un code d'éthique et de déontologie. L'adoption de ce code est une première pour l'administration sénégalaise, a souligné son directeur général, Cheikh Tidiane Diop, qui souligne son importance dans le cadre du code de transparence de la gestion des finances publiques. L'Ukraine a affirmé hier qu'aucune avancée concrète n'avait eu lieu dans le dossier des céréales bloquées dans ses ports du fait de l'invasion russe, après des déclarations optimistes d'Ankara. Les consultations sont en cours, a indiqué sur Twitter le porte-parole de la diplomatie ukrainienne, Oleg Nikolenko.
Merci Claire. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Sadio Mané est désormais un joueur du Bayern Munich.
Oui, l'attaquant sénégalais s'est engagé pour 3 ans, soit jusqu'en 2025, avec le club allemand. À 30 ans, Mané qui quitte Liverpool aura coûté environ 40 millions d'euros au Bayern Munich. Après avoir offert la première CAN de son histoire au Sénégal, puis un billet pour le Qatar, Sadio Mané s'offre un nouveau défi.
Ma vie est toujours faite de défis et j'ai choisi de venir ici. Je sais que c'est un défi, mais j'aime les défis. Bien sûr, mon plus grand rêve, si vous êtes fan du Bayern, ce sera la même chose, c'est de gagner tous les trophées possibles.
Le transfert royal du Bayern soutient la presse allemande, tant le recordmeister s'est rarement offert de joueurs de ses standings, mais l'investissement semblait indispensable. L'attaquant vedette des Bavarois, Robert Lewandowski, l'homme à plus de 40 buts par saison, veut quitter l'effectif en fin de saison. Pas les mêmes statistiques que chez Mané, mais le Sénégalais a tout de même marqué 111 fois en 263 matchs en Premier League avec Southampton et Liverpool, avec en plus 47 passes décisives. Lors de ses 55 apparitions en Ligue des Champions, Mané a marqué 24 buts, accompagné de 8 passes décisives.
Kevin Prince Boateng prolonge 2 ans au Hertha Berlin.
L'expérimenté milieu de terrain ghanéen de 35 ans a prolongé d'une saison son contrat avec le Hertha Berlin, dont il a contribué au maintien in extremis dans l'élite du football allemand. Kevin Prince Boateng a été décisif dans la remobilisation du Hertha le mois dernier lors du barrage retour face à Hambourg, remporté 2-0 par les Berlinois. Formé au Hertha Berlin, Kevin Prince Boateng a porté au cours de sa carrière les couleurs de plus de 12 clubs, dont Tottenham et l'AC Milan. International allemand dans les équipes de jeunes jusqu'en espoir, il a ensuite opté pour la sélection du Ghana, le pays d'origine de son père.
Tennis, Serena Williams qualifiée pour les demi-finales du double à Eastbourne.
Oui, la superstar américaine s'est qualifiée hier pour les demi-finales du tournoi de double sur gazon d'Eastbourne avec la Tunisienne Ons Jabeur. Elles ont battu la Japonaise Shuko Ayuhama et la Taïwanaise Shan Hao Ching en 2-7, 6-2, 6-4. Contrairement au premier tour, il n'y a pas eu de retard à l'allumage pour la paire américano-tunisienne qui a remporté la première manche 6-2 pour s'imposer au finish en 1h05. En demi-finale, Williams et Jabeur affronteront la Polonaise Magda Linette et la Serbe Alexandra Kunic.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le cercueil de Patrice Lumumba a été ramené mercredi à Kinshasa, sur sa terre natale, plus de 61 ans après son assassinat au Katanga. Ce retour a été possible deux jours après la restitution par la Belgique à la RDC d'une dent, seul reste de la dépouille du héros de l'indépendance. Le premier ministre belge Alexandre de Croo a renouvelé lundi, les excuses de Bruxelles pour la responsabilité de certains dirigeants et fonctionnaires de l'ex-puissance coloniale dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Pour une réaction, Eric Manirakiza a joint à Kampala Karine Kaneza Nantulia, chargée du plaidoyer pour l'Afrique à Human Rights Watch.
Effectivement, les restes du héros national, qui n'est pas seulement un héros national congolais, mais qui a sa place au sein des panafricanistes les plus appréciés du continent africain, ont finalement été déposés au Congo. Ce geste doit aller beaucoup plus loin. On doit aller au-delà des regrets à une situation de réparation. J'en profite justement pour exprimer notre solidarité auprès de sa famille. On ne peut qu'imaginer la souffrance et l'angoisse qui accompagnent ce genre de processus. Rappelons quand même que ce qui a été remis, encore une fois, c'est une dent. Ce sont des ossements de doigts. On ne sait pas si les gens devraient justement s'exclamer et dire « Enfin !» ou « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé en ce jour fatidique ?» En ce jour où Premier ministre Patrice Lumumba a été assassiné. Donc, il faut réfléchir, on fait appel au gouvernement belge de justement faire tout ce qui est nécessaire pour que justement ces gestes symboliques qui sont appréciés à leur juste mesure se transforment et se traduisent en actes tangibles et en des promesses et un processus de réparation pour les victimes, pour la famille, non seulement les descendants de Patrice Lumumba, mais aussi toutes les victimes congolaises qui ont souffert et qui continuent à souffrir de la ségrégation structurelle, institutionnelle, qui a été mise en place par le gouvernement belge de l'époque, sous justement le roi Léopold II, et dont les conséquences continuent à se faire sentir jusqu'à maintenant.
Vous dites qu'il faut aller plus loin, vous demandez des actes tangibles. Quoi exactement, concrètement?
Par exemple, lorsque nous parlons des abus qui ont affecté justement les victimes, nous pensons par exemple aux compensations financières, mais aussi à la reconnaissance des atrocités passées et des dommages qu'elles continuent de causer. Il faut qu'il y ait justice aussi. La fin des abus qui continuent d'être commis, les abus liés à la colonisation belge, il faut qu'on soit clair, sont des violations extraordinairement graves des droits de l'homme, qui seraient aujourd'hui considérées comme des crimes contre l'humanité. Cela nous donne l'ampleur de justement de ce qu'on peut envisagée comme réparation. Et nous pensons en principe que les descendants d'une victime de violation des droits humains devraient pouvoir demander par exemple réparation. Il faut qu'on se rappelle qu'il y a quand même une grande portion de la population congolaise qui est née après l'indépendance. Il est possible de déterminer justement les descendants directs justement des victimes qui ont vécu pendant la colonisation belge. Il faut comprendre que cela peut être contrebalancé par des avantages économiques qui sont tirés du colonialisme et sur lesquels la Belgique continue de prospérer et de jouir jusqu'à maintenant. Il faut aussi penser à la mise en place, l'érection de monuments, de musées, l'éducation et une forte sensibilisation du public qui devrait contribuer à couper court à toute déformation de l'histoire.
Karine Kaneza Nantulia, chargée du plaidoyer pour l'Afrique à Human Rights Watch, jointe à Kampala.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
La crise du carburant persiste au Nigeria. À Abuja en particulier, les Nigérians font face depuis plusieurs mois à un approvisionnement imprévisible, les stations-service fonctionnant à capacité réduite. La crise a commencé en réalité en 2021 après que le gouvernement a annoncé son plan de suppression des subventions au carburant. Les files d'attente à la pompe sont revenues dans la capitale fédérale. Un reportage de notre correspondant Gilbert Tamba.
à la station-service de Chafa dans le quartier de Djaï. Les activités sont à l'arrêt ici. Les agents de vente sont assis en train de discuter entre eux. La direction de la station-service n'est pas disponible pour nous parler. À Djaï, pendant ce temps, la station-service Eirano vend l'essence aux automobilistes, mais la file d'attente est très longue. Hamza est chauffeur de taxi.
Cette crise des carburants est très grave, franchement parlant. Je veux acheter du carburant maintenant, mais je ne sais pas à quel moment je vais en obtenir. Et même si j'obtenais le carburant, je ne pourrais plus travailler parce qu'il n'y aura plus de temps pour moi. C'est très grave. Nous produisons le pétrole nous-mêmes et pourquoi nous faisons face à cette crise?
La rareté du carburant à un moment des hausses mondiales des prix du carburant brut secoue certains États du Nigeria, malgré l'assurance donnée par la compagnie pétrolière nationale, la NNPC, qu'il n'y aurait pas d'augmentation des prix à la pompe. Les effets de cette pénurie sont désastreux pour l'économie. Les travailleurs devront patienter plusieurs heures dans les files d'attente pour espérer atteindre la pompe. Omar Moussa travaille au bureau de liaison de l'État de Yobe à Abuja.
Nous ne sommes pas contents de cette situation. Je devais être au travail maintenant, mais je suis encore ici dans la file d'attente, à la recherche du carburant. Tous les jours, c'est le même problème. Nous ne savons pas ce qui se passe réellement. Nous demandons au gouvernement de faire quelque chose. Nous ne sommes pas contents. S'il vous plaît, le gouvernement, aidez-nous.
Les revendeurs de carburant ont identifié le coût élevé du transport de l'essence comme l'une des causes majeur de la pénurie actuelle au Nigeria et du coût élevé du diesel actuellement à 800 naira, soit 1,93 $. Une crise qui vit Abuja, la capitale fédérale, depuis février dernier. Akin Rinade est l'un des responsables de l'Association nationale des commerçants indépendants du pétrole au Nigeria.
Pour que vous pompiez un litre d'essence, vous payez 162 naira. À cela, vous devez ajouter le prix du transport, ce qui est entre 6 à 8 naira pour le litre selon la distance. Donc, si vous ajoutez 8 naira à 162 naira, vous avez déjà 170 naira. Et ce produit est réglementé par le gouvernement, et ce gouvernement veut que nous vendions le litre à 165 naira.
Gilbert Tamba, Abuja pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, les restaurants plein air sont actifs dans presque tous les quartiers d'Abidjan et génèrent de gros business. Les vendeurs de viande braisée par-ci, de poulet et poisson braisé ou de charcuterie par-là font le grand bonheur des Abidjanais, selon notre correspondante Delphine Boise, qui nous invite à aller à la rencontre de certains de ces acteurs de restaurants plein air ou à ciel ouvert.
Première escale, la commune de Cocody, au quartier Air Afrique. Ici, c'est un maquis plein air sans nuisance sonore. Patrice Privadoué, son tenancier et sa compagne Patricia Okou, ils mènent leurs activités. Et c'est Patrice qui parle au nom du couple.
Mes activités, il y a un maquis, c'est un plein air du quartier. Il y a une amie qui vend poulet à côté. On a commencé depuis fort longtemps, depuis 10 ans aujourd'hui que je suis là.
Patrice Privat, sans détour, dit très bien s'en sortir.
Il peut dire oui, ça va. Parce que comme c'est un plein air, comme actuellement c'est le temps des pluies, c'est un peu. Quand ça marche, on peut faire recettes, 100 000, souvent 50 000. Dedans, j'écris pour nourrir ma famille. En tant ici même là, je peux me débrouiller, s'en sortir avec ma famille.
Halte à Yopougon, Sidessi, terminus 42, nouveau site Gabriel Gare. La spécialité de ce plein air, la commercialisation de la viande de porc. Dame Yolande Kouakou.
Moi, c'est en 1973 que j'ai commencé à vendre la viande de porc. C'est rentable, parce que c'est avec ça qu'il y a les enfants qui sont aux États-Unis, qui sont en voyage. C'est ça qu'on prend pour payer l'école de nos enfants.
Dernière escale, commune de Port-Boué, chez Sekou Savadogo, vendeur de choukouya. Ce barbecue à l'africaine, fait de viande de mouton, de bœuf ou de poulet braisé. Vivons l'ambiance.
L'angle fruit est à 3 000, 4 000, 3 000, 4 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000.
Ici là, on fait choukouya.
Puis Sekou Savadogo partage le secret du déferlement des clients vers son site au Choukouya de l'abattoir.
Après cette douleur, là, les qualités là, après ça, les gens qui sont ailleurs viennent manger ici. Les goûts là, non, c'est la même chose. Voilà.
Des clients rencontrés sur place ne disent pas le contraire.
Très souvent, ils viennent ici pour aller batailler à la famille le soir.
Ici, franchement, la viande est toujours fraîche. Et puis, on se sent au niveau de l'abattoir où on se dit que c'est le offre. Et puis, le coût aussi, c'est mieux par rapport aussi en ville aussi.
Ça nous permet de découvrir certains plats que bon, on n'a pas l'habitude de manger à la maison.
Quand nous évoquons son bénéfice journalier, Sekou Savadogo répond sans embâge.
Ça va.
Un bout de mot qui en dit long sur son contenu, car, dit-on, l'argent n'aime pas le bruit. Et vous l'aurez compris, ces restaurants plein air, on en trouve dans presque tous les quartiers d'Abidjan et ils font des heureux. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, l'administration Biden a annoncé mardi qu'elle renonce à utiliser des mines antipersonnel hors de la péninsule coréenne et elle s'engage, cette administration, à ne plus en développer, en produire ou en exporter. Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, précise que l'objectif de Washington à terme est de rejoindre la Convention d'Ottawa de 1997 qui interdit les mines antipersonnelles et dont la première puissance mondiale n'est pas signataire. Quel pourrait être l'impact de cette mesure sur le plan humanitaire? Eric Manirakidza a joint à Dakar Stéphane Landerlos, responsable régional pour l'Afrique au CICR, en charge de la contamination par les armes.
C'est une très bonne décision. Le CICR est vraiment heureux de voir le changement dans la politique des États-Unis vis-à-vis des mines antipersonnelles. On a noté que les États-Unis vont faire leurs plus grands efforts matériel et aussi opérationnel pour trouver des solutions à se tenir et en venant compliant avec toutes les normes de la Convention d'Ottawa. Alors, le CICR veut encourager les États-Unis à prendre des pas concrets pour accéder à la Convention d'Ottawa au plus vite que possible.
Vous êtes confronté au quotidien à ce fléau des mines antipersonnelles. Quel pourrait être l'impact de cette décision de Washington sur le terrain, là où vous vous trouvez?
Déjà sur le terrain, il y a beaucoup de mines antipersonnelles qui sont de provenance des États-Unis. Et si le gouvernement américain ou le gouvernement des États-Unis n'exporte plus, par exemple, ces mines antipersonnelles, ça va se faire sentir sur le terrain aussi, évidemment. Ça veut dire que l'influx de ces engins explosifs sera minimalisé ou en tout cas qu'il y aura moins de mines qui vont venir sur le marché.
Il y aura moins de dégâts.
Il y aura moins de mines. Il faut déjà voir qu'en Afrique, il y a encore beaucoup de pays qui ont des champs de mines qui datent de plusieurs années, des conflits qui sont déjà terminés depuis longtemps. Et là, les mines, elles sont là, alors elles vont continuer à causer des dégâts aux civils. Ça, c'est clair. On essaie de réduire ces dégâts, mais c'est pas quelque chose qui est très facile. D'un autre côté, il faut voir que les conflits qui se passent maintenant, actuellement, qu'il y a beaucoup de mines improvisées. Et là, même avec la décision du gouvernement des États-Unis, ça ne va rien changer. Alors, des mines improvisées, elles fonctionnent comme des mines qui sont fabriquées en usine, des mines militaires, on va dire. Mais elles sont faites souvent avec des matières qu'on trouve sur le marché. Elles sont improvisées de nature.
Stéphane Landerlos, responsable régional pour l'Afrique au CICR, en charge de la contamination par les armes, joint à Dakar, au Sénégal. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seboudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnou, à la console, Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.